Versets 10 à 20 du chapitre 6 des Éphésiens. Les armes spirituelles du chrétien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Et nous savons que Dieu est celui qui appelle des hommes. Il appelle, il justifie les hommes qui répondent à son appel, il les prédestine et il les glorifie. Ceux qu'il a connus d'avance, comme l'apôtre Paul nous le dit dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Je rappelle cela pour montrer ce que Dieu fait essentiellement pour l'homme. Mais cet homme appelé, justifié, glorifié, c'est-à-dire qui a à sa disposition la force de Dieu, la manifestation de la force de Dieu est une glorification actuelle en ce temps. Eh bien, cet homme que Dieu a donc appelé, prédestiné et glorifié, est sauvé en espérance. Ça ne veut pas dire d'une façon aléatoire, mais il est sauvé en espérance. Son salut est devant lui, il est sauvé en espérance. Et un héritage lui est réservé, s'il fait partie des saints, un héritage lui est réservé dans la lumière. Mais il a un séjour à effectuer sur cette terre. C'est notre cas à tous. Nous avons un séjour à effectuer sur cette terre. Et pendant ce séjour, nous avons à livrer des combats, à combattre. Il est impossible que la foi n'apprenne pas à combattre et ne parvienne pas à une victoire. D'où cette conclusion générale du Seigneur Jésus aux 7 lettres aux églises d'Asie mineure, à celui qui vaincra, je donnerai, ou celui qui vaincra aura telle ou telle chose. Celui qui vaincra. Invitation donc à vaincre au cours des combats. Et nous avons tout de suite une analogie qui se présente à nous, qui s'impose à nous. L'Ancien Testament est là pour nous en fournir beaucoup d'analogies. C'est la situation du peuple d'Israël, la situation du peuple d'Israël que Dieu conduit et que Dieu a en vue de faire entrer dans le pays, appelé pays de la promesse, pays de Canaan, le faire entrer dans ce pays. Et nous allons voir quelle est la situation de ce peuple dans le tout commencement du livre de Josué, livre de Josué, chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Nous avons dans ce passage la même exhortation que dans le commencement du passage que nous étudions, « Fortifiez-vous dans le Seigneur. » Et là, Dieu disait à Josué, pour lui et pour le peuple, « Fortifie-toi et prends courage. » Qui y avait-il donc là? Qui avait-il? Il y avait un peuple auquel Dieu avait donné un pays. Et ce pays, le peuple doit y entrer pour en prendre possession, mais par le moyen de combat. Il faudra que le peuple combatte. Le Seigneur sera avec lui, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays. Josué va là prendre la fonction d'un capitaine conduisant le peuple à travers des combats qu'il faudra livrer et soutenir. Et pourtant, ce pays, le Seigneur l'a vraiment donné. Alors, je reviens donc à cette étude. Nous avons là une analogie. Des combats sont à soutenir. Et cependant, je le répète, Dieu a donné ce pays au peuple. Il le donne. Mais il ne le dit pas, je te fais entrer sur un tapis de velours, n'est-ce pas? Tu vas entrer avec des palmes, tu vas chanter, et tout va s'écarter devant toi. Non, tu vas combattre. Il faut combattre. Eh bien ça, vous voyez, n'est-ce pas? Cette analogie nous montre que c'est la manière de Dieu, et une manière qui procède de sa sagesse, bien entendu. C'est la manière de Dieu, elle n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Par conséquent, à ceux qu'il a appelés dans le temps de sa patience, dans la dispensation de la grâce, ceux-là ont des combats à livrer, des combats les attendent. Et ça, il faut le savoir. Et une des grandes erreurs que nous commettons dans nos églises, eh bien, c'est de ne pas en prévenir les nouveaux venus dans l'église. Et souvent, n'est-ce pas, de leur présenter du dehors la vie chrétienne comme un Éden immédiatement, n'est-ce pas, un Éden dans lequel on va marcher sur les pierres étincelantes, on va cueillir des roses, n'est-ce pas, et il n'y aura absolument rien à faire que à goûter des délices. Il y a des délices, bien sûr, intérieurement, mais il y a des combats. Et dans les combats, il pourra y avoir blessures reçues. Et il pourra, en tout cas, y avoir difficultés à surmonter. Parce que l'ennemi va attaquer. Il y a un ennemi, nous sommes sur la terre, il s'agit du séjour sur la terre, il y a un ennemi qui va attaquer et qui va s'efforcer d'abattre, d'avoir raison de l'Église, parce que l'Église, c'est le royaume de Dieu en préparation, et Satan lutte contre le royaume de Dieu. L'ennemi, qui est-il cet ennemi? Cet ennemi, il est nommé ici, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est le diable, c'est Satan. Satan, avec toute une escorte d'esprits méchants dans les lieux célestes. Or, nous allons voir dans un instant l'énumération que Paul nous donne de ces esprits, mais disons que pour lutter contre les esprits, il faut des armes spirituelles. Et ces esprits disposent d'une puissance supérieure à celle de l'homme. Et de combien supérieure? L'homme naturel, l'homme tel qu'il est sur la terre. Pour lutter, il faudra donc des armes de Dieu, venant de Dieu, des armes spirituelles, parce que ce qui est corporel ne peut pas avoir raison des esprits. Avec notre corps, avec tout ce dont nous pouvons disposer sur le plan matériel, nous n'aurons jamais raison de l'esprit, au contraire. Des esprits. Nous laisserons ouverte notre citadelle si nous prétendons utiliser des armes charnelles que, ailleurs, l'apôtre Paul appelle armes charnelles, armes matérielles, armes tenant à notre corps, à la force physique, par exemple, n'est-ce pas? Ça a été une erreur, toujours une erreur, même parmi ces hommes de foi qu'étaient les Huguenots ou autres, ça a été une erreur de vouloir combattre avec des armes, avec l'épée ou autres armes. C'était une erreur tragique. À ce moment-là, on présente le flanc à l'ennemi. Et c'est ainsi qu'ils ont été ravagés. Le Seigneur n'avait pas dit de combattre avec l'épée, loin de là. Ce qui est corporel, donc, ce qui est physique, ne peut pas avoir raison des esprits. Les forces matérielles n'ont aucun effet sur les esprits se jouent de cela. Seul l'esprit, disons même un esprit, peut lutter contre un esprit. Je laisse anonymat des deux côtés, n'est-ce pas? Seul un esprit, c'est-à-dire un être en forme d'esprit, peut lutter contre un autre être en forme d'esprit. Nous avons ça dans le livre de Daniel, où nous voyons un ange, l'ange Gabriel, lutter avec celui qui est appelé le chef de la Perse, et qui est une de ses dominations, une de ses autorités dont nous parle ici l'apôtre, et qui s'oppose au passage de l'ange. Et Dieu ne veut pas que ce passage soit forcé autrement que par un combat. Dieu accepte, lui, le combat. Il pourrait écraser ces gens-là. Le temps n'est pas venu de les écraser. Oh, quand le temps sera venu, vous savez, Satan lui-même ne sera qu'une poussière. Dieu le saisira. D'abord, il l'enfermera pendant 1000 ans dans l'abîme. Et puis là, il ne pourra plus rien faire, et quand les 1000 ans seront passés après ce petit temps de révolte finale, Dieu le saisira et le jettera dans les temps de feu où ce sera fini de lui, n'est-ce pas? Donc, ne croyons pas que Dieu se trouve lui-même en difficulté, non, mais Dieu accepte le combat pour une raison de sagesse, que je ne peux pas développer actuellement, ça nous emmènerait trop loin. Donc, seul un esprit peut lutter contre un esprit. Cependant, il faut bien dire qu'un esprit est capable de détruire et de ruiner des corps. Les corps ne peuvent rien contre l'esprit, mais l'esprit peut contre les corps. N'oublions pas cela. L'esprit peut contre les corps. Et nos corps, si nous ne savons pas nous défendre, peuvent être ravagés, ruinés, par les esprits méchants. Non seulement ils peuvent en prendre possession, nous jeter, je prends une figure de l'évangile, n'est-ce pas, un récit de l'évangile, nous jeter dans l'eau, dans le feu, n'est-ce pas, nous faire un tas de choses, enfin, nous, pas absolument nous chrétiens, n'est-ce pas, mais nous hommes, nous jeter dans le feu, faire un tas de choses comme ça, et puis faire de notre corps le siège d'une redoutable maladie, n'est-ce pas, mais nous pouvons dire que, inversement, les corps ne peuvent pas lutter contre les esprits. Ceci étant dit, nous pouvons rappeler que l'homme pécheur ne peut pas de lui-même se soumettre à la domination des esprits dont nous parle ici l'apôtre Paul. Il ne peut pas, l'homme pécheur ne peut pas se soustraire à la domination des esprits. Il ne peut que se laisser conduire par eux, diriger par le bout du nez. Exactement. Et alors, chers amis, n'est-ce pas, on trouve une ignorance dans le peuple de Dieu qui souvent est désespérante. Enfin, elle n'est peut-être pas tout à fait de votre faute. Mais j'entends quelquefois dire ceci, « Oh, mais il y a dans le monde des hommes comme ceci, des hommes comme cela, qui savent ce qu'ils veulent, qui font ceci, qui font cela, des hommes de bien, etc. » Ils sont tous menés par le bout du nez par Satan et les esprits méchants. Tous. Depuis l'homme d'État, on pourrait dire a fortiori, depuis le principal, l'homme d'État, jusqu'à n'importe lequel, n'est-ce pas, des hommes qui prennent place dans les sociétés humaines, n'importe qui, ils sont menés tant que Dieu n'est pas avec eux parce qu'ils sont dans leur péché, ils sont tous sous la gouverne du diable et de ses auxiliaires nombreux, tous ces esprits dans les lieux célestes, comme le dit ici l'apôtre. Ils sont tous menés. Et ça, il faut que nous le sachions, nous, n'est-ce pas? Et s'il y a une apparence de sagesse dans la conduite d'un homme, je dis bien une apparence, c'est que nous ne savons pas voir les choses au fond. C'est une apparence de sagesse. Nous n'avons à nous fier à aucun homme, parce que si nous nous fions à un homme, fût-il grand, fût-il impressionnant, et eût-il des paroles heureuses qui ont eu un certain écho en nous, eh bien, si nous avons confiance en un homme, nous reportons notre confiance au diable, tout simplement, à travers cet homme. Et le diable ne va pas manquer de s'en servir. Voyez, comme il est bon, n'est-ce pas, que nous sachions ces choses et que nous en soyons largement prévenus. Seul l'Esprit de Dieu a une maîtrise absolue sur les êtres supérieurs à l'homme, tous ces êtres dont il nous est parlé, ces esprits. Seul Dieu dispose de la maîtrise la plus absolue. Il n'en use pas, je vous l'ai dit, pour tout supprimer, ces êtres méchants, parce que s'il supprimait ces êtres méchants, il supprimerait le contexte de notre épreuve, l'épreuve de notre foi, et nous ne serions pas prêts, nous, à être sauvés. C'est pour nous sauver qu'il laisse encore ça. C'est pour nous avoir, nous. C'est pour nous sauver. Jusqu'au terme de sa patience. C'est pour nous sauver, uniquement. Mais sans quoi, n'est-ce pas, il aurait eu rapidement, en un clin d'œil, raison de toutes ces puissances infernales. Donc, il dispose d'une maîtrise absolue. Mais, pour nous, il faut, étant disciples de Christ, que nous recevions de Dieu les armes, donc armes de Dieu, les armes spirituelles appropriées au combat. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Voyez-vous, sa force toute puissante. Elle est absolue, elle domine tout, n'ayons pas crainte de cela. Et quand on prétend que Dieu ne connaît pas tout, ce qui d'ailleurs est contraire à l'affirmation toute simple de l'Écriture, n'est-ce pas? Déjà, on s'insurge contre l'Écriture, Dieu ne sait pas tout. C'est une hérésie du moment encore, parmi les autres. Eh bien, on atteint aussi sa toute-puissance. Car si Dieu ne sait pas tout, il ne peut pas être tout-puissant. Il ne peut pas, par exemple, n'est-ce pas, être puissant là où il ignore quelque chose. Vous voyez comme c'est infiniment grave, n'est-ce pas, que l'on dise des choses aussi énormes, des énormités comme celle-là. Dieu sait tout, nous l'avons vu affirmer l'autre jour, n'est-ce pas, Dieu sait tout et il peut tout. Et s'il y a des choses qu'il laisse, eh bien, que ceux qui vraiment ont le cœur fermé ne comprennent pas l'Écriture ni la puissance de Dieu, ne comprennent pas les Écritures, qu'ils s'adressent alors à l'Esprit. Ils reviennent humblement vers l'Esprit qui leur montrera que c'est à cause de ses compassions et de sa miséricorde que le Seigneur attend. Le Seigneur gagne du temps, le Seigneur veut nous éprouver, nous rendre inébranlables, et pour cela, il faut que notre foi soit soumise au combat, que notre foi sache combattre et être victorieuse. Fortifiez-vous donc dans le Seigneur, c'est-à-dire, soyez à même de disposer de la force du Seigneur, non pas d'une force humaine, laissez toute force humaine de côté, elle ne vaut rien, mais de la force du Seigneur. La force de Christ va se déployer dans le combat du disciple, comme la force de Dieu se déployait dans le combat du peuple d'Israël, prenant possession, sous la conduite de Josué, du pays de la promesse. N'est-ce pas? C'était la force de Dieu qui se développait, non pas la force du peuple. Mais là, ce sera la même chose. La force de Christ va se déployer dans le combat du disciple, selon certaines modalités qu'il faut connaître et que l'apôtre nous fait connaître ici. Ces modalités consistent à revêtir, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, à les revêtir, à en prendre possession de toutes les armes de Dieu. Dans le texte grec, il y a ici le mot grec panoplia, qui vient d'un autre verbe, oplon, arme. Panoplia veut dire l'ensemble des armes. C'est ce mot-là dont on a fait panoplie, la panoplie. Panoplia, il est ici ce mot, n'est-ce pas? Donc, à vous revêtir de la panoplie de Dieu, de toutes les armes de Dieu. Et cela afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable ne va pas employer nécessairement la violence à travers le monde, à travers les autres hommes. Il ne va pas employer toujours la violence. Quelquefois, il cherche à employer la violence en se servant même des éléments. Rappelons-nous la tempête dans laquelle se trouvaient en difficulté les apôtres, n'est-ce pas, au point qu'ils réveillent le Seigneur Jésus parce que ils ont peur, ils tremblent, et le Seigneur Jésus va menacer les vents et la tempête et tout va s'apaiser. Donc c'était bien le diable qui soulevait tout ça. Mais le diable ne va pas toujours, n'est-ce pas, agir par des moyens violents. En général même, il n'aime pas trop ces moyens violents. Il préfère la séduction. C'est lorsque il arrivera tout à fait à la fin, sachant qu'il en a pour peu de temps, il le sait déjà, n'est-ce pas, mais tout à fait à la fin, alors là, à travers l'Antichrist, n'est-ce pas, il va alors être obligé, être lui-même amené à utiliser la grande violence. Se revêtir des armes de Dieu, les ruses de diable, du diable, c'est le mot ruse du diable que l'on a déjà trouvé dans Éphésiens 4, 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous voyez, là, la ruse est prêtée aux hommes, mais c'est la ruse de Satan qui s'exerce par le moyen des autres hommes, ce qui est souvent le cas. Donc, le diable va se servir de séduction, de tromperie, c'est son arme, la meilleure, son arme qu'il utilise presque toujours. Il est le tentateur, il trompe, il use d'appât, il use de fausses situations, il crée des situations. Ses ruses consistent à créer des situations fausses, qui amènent des fausses questions, n'est-ce pas ? Qui, lorsqu'on cherche à les résoudre, charnellement, amène des fausses solutions. Alors là, il est content. Il a créé une fausse situation. Vous n'avez pas remarqué, chers amis, que le Seigneur Jésus n'a pas répondu de but en blanc à toutes les questions qui lui ont été posées. Il n'a pas accepté toutes les situations qu'on a placées devant lui et dans lesquelles on voulait l'enfermer. Il ne s'est pas laissé enfermer dans des situations. Tandis que nous, la plupart du temps, on voit une situation, ah, alors on s'y met, on s'y plaît, on y reste, puis on essaie de résoudre. Il n'y a pas de solution, c'est une situation du diable. Une situation créée artificiellement par le diable. Alors il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de sortir de cette situation, de ne pas l'accepter, cette situation. De ne pas accepter de situation, de ne pas vouloir s'y mettre. Si par exemple, je fais alliance, je vais vers certaines gens, certaines personnes, que j'accepte un dialogue, comme on dit aujourd'hui avec eux, que j'accepte, par exemple, n'est-ce pas, je suppose, tenez, j'accepte d'aller prier, la question m'a été posée, j'ai déjà dit, d'aller prier avec des prêtres catholiques. Bon, j'y vais. Ça, je tombe à pieds joints dans une situation du diable. Je ne dis pas que les prêtres sont les diables, mais le diable se sert des prêtres. Pourquoi je vais tomber dans une situation du diable? Mais parce que ces gens-là n'ont pas la pensée pure de l'Évangile. Ils ont tout autre chose, avec un peu d'Évangile, ils ont bien d'autres choses, ils sont dans un système, ils sont attachés à certaines des modalités de ce système, et entre eux et moi, il n'y a pas parité, il y a, comme dit Paul dans un texte, joug inégal. Il y a un joug qui est de travers, n'est-ce pas? Et alors, nous voulons tirer un char avec un joug inégal, un joug de travers. C'est exactement le sens de ce que dit Paul. Imaginez, n'est-ce pas, deux bœufs, par exemple, tirant, n'est-ce pas, un char. Voilà, n'est-ce pas, le char, ça c'est les bœufs, n'est-ce pas, et le joug de travers. Comment voulez-vous que ça marche droit? C'est pas possible. C'est ce que Paul dit, le joug inégal. C'est traduit dans second par le joug inégal, je crois, c'est-à-dire un joug qui est travers. Hein? Alors, ce n'est pas possible. C'est une situation du diable. Ça va aller de travers. Ça va aller dans le fossé. On ne peut prier que si on est tous d'accord sur la vérité. Quand quelqu'un m'a posé la question, un jeune, est-ce que on peut aller prier avec des prêtres? Si vous aviez, si des prêtres vous demandaient d'aller prier avec eux, que feriez-vous? Je dis, je prendrais la Bible, l'épée, et je leur lirais certains passages clés. Je leur dirais, êtes-vous d'accord avec ça? Oui, s'ils me disaient oui, je leur dirais, bon, alors, le jour où votre vie sera en règle avec ça, c'est-à-dire que la vérité que vous acceptez, en principe, sera une vérité pratique dans vos vies, nous prierons ensemble. Jusque-là, au revoir. C'est ça, n'est-ce pas, qui forcément va nous faire chavirer. Enfin, n'oublions pas, chers amis, que un certain Usa a été frappé de mort parce qu'il a mis sa main pour retenir un char qui allait de travers. Et sur ce char, il y avait l'arche de Dieu. David, au début, n'a pas compris. Il a compris un peu plus tard. Et Usa a été frappé de mort sur place. Pourquoi le char était-il de travers? Pourquoi l'arche menaçait-elle de tomber sur le côté? Parce que, au lieu d'obéir à Dieu, au lieu de transporter l'arche par des sacrificateurs, on avait mis l'arche sur un char. Bien fait, tout neuf, magnifique. Un char tout neuf. Mais le char, il était sur un mauvais chemin, n'est-ce pas? Et le char, évidemment, il ne peut pas aller droit. Tandis que les sacrificateurs avec leurs pieds, eux, ils pouvaient tenir l'arche en bonne position. Dès qu'on sort, n'est-ce pas, de Dieu, et le diable nous fait sortir, il a essayé de faire sortir Jésus. Vous croyez que si le diable, aujourd'hui, pouvait encore tenter Jésus sur cette terre, et qu'ils lui disent, tu veux, on va aller prier avec ces gens-là. Vous croyez que Jésus accepterait d'y aller? Non, pas. Il n'a même pas prié avec ses apôtres. Il n'a pas prié avec ses apôtres. Parce qu'il n'y avait pas d'accord. Il aurait prié après la Pentecôte. Mais il n'a pas prié avant. Il y a eu une seule tentative à Gethsémané. Trois qu'il a approchés, et encore est-il qu'il est allé plus loin, et que ceux-là n'ont même pas pu prier, ils se sont endormis. Ils n'ont jamais prié avec leur maître. Il faut être d'accord, si deux ou trois s'accordent pour demander la même chose, c'est un accord du Saint-Esprit, et il faut qu'il y ait un accord dans l'obéissance. Un accord d'obéissance. Il faut tous, n'est-ce pas, être sur l'égalité, dans l'obéissance, et tirer un joug qui est droit. Par conséquent, les ruses consisteront essentiellement à créer de fausses situations, de faux problèmes, et à appeler de fausses solutions, bien entendu. Alors là, n'est-ce pas, le char de l'Église s'embourbe, se renverse, et tout ce qu'on veut bien. Le diable gagne de cette manière-là. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. La chair et le sang, c'est-à-dire nous n'avons pas à lutter contre la corruption propre à l'homme naturel lui-même. L'homme a un processus de corruption qui agite en lui. Bon, c'est la chair et le sang, l'homme naturel. Bien, s'il y avait à lutter contre ça, ce serait déjà quelque chose. Mais il y a plus. Il y a plus fort que ça. Ce n'est pas seulement contre, donc, la puissance de ténèbres qui est attachée à l'homme naturel et au vieil homme en nous, le vieil homme que nous avons à maintenir dans la mort, dans le crucifiement. Ce n'est pas, n'est-ce pas, contre cela seulement, contre les propres penchants de l'homme lui-même, de ce vieil homme. Ce n'est pas seulement contre cela, mais au-delà de ses penchants, il y a une puissance de mal qui lutte contre l'homme régénéré et qui lutte contre le règne de Dieu. Et cette puissance-là, elle est cosmique. Elle est cosmique dans les lieux célestes. Je ne dis pas dans la cité de Dieu, hein. Lieu céleste ici ne veut pas dire cité de Dieu. Mais dans les airs, comme dans cette même épître, Paul l'a dit, n'est-ce pas, dans les airs. Elle est dans les airs. Ses esprits sont dans les régions supérieures de la terre, et c'est de là qu'ils exercent leur maléfice. Donc, il y a à lutter contre une puissance de mal. Pourquoi cette énumération de l'apôtre domination, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres? Il y a des princes. Princes de ce monde de ténèbres. Le monde ici, c'est le mot qui a donné cosmos, c'est cosmos, n'est-ce pas? Contre, donc, ce monde en entier, dans son entier. Les esprits méchants. Et tout cela, ce sont des êtres intelligents, ce sont des démons, dit-on, c'est un démon, c'est une désignation générique, hein. Mais il y a là des êtres hiérarchisés. De même que dans les anges fidèles à Dieu, il y a une hiérarchie, là la hiérarchie a été conservée aussi. Il y a là, probablement, disons, des archanges aussi, n'est-ce pas? Enfin, il y a des dominations. Et c'est ce que nous montre toujours ce livre de Daniel, le prince de la Perse, qui est un esprit, le prince de la Perse, et qui entrave la marche de l'ange Gabriel. Le prince de la Perse est donc une autorité au service de Satan. Des êtres hiérarchisés qui dominent sur le monde, dans les régions supérieures de la terre. Le péché a assujetti les hommes à ses puissances. Parce que ces puissances ont triomphé de l'homme. Vous savez que tout ce qui triomphe, n'est-ce pas, reçoit, prend autorité. Et c'est un principe que nous voyons jouer sur cette terre, n'est-ce pas? Si, par exemple, sur une collectivité, un homme a triomphé de cette collectivité, eh bien, il a pris autorité, il va faire de cette collectivité ce qu'il voudra. C'est comme ça que les dictateurs arrivent à pouvoir maîtriser des peuples. Alors, ces puissances ont triomphé de l'homme, mais par Christ, le rapport de la puissance se trouve brusquement renversé. Le rapport pour l'homme naturel, le rapport de la puissance, c'est que l'homme naturel est un esclave. C'est ce que la Bible nous montre, un captif, un esclave. Hein, c'est tout à fait réel, c'est vrai, n'est-ce pas? Il est un captif, un esclave, sous la domination de ses puissances. Mais voici que vient le Christ et son œuvre, et alors là, pour les hommes de foi, tout est renversé, et le disciple de Christ doit être aussi fort que le maître lui-même l'a été contre ces puissances qu'il a supportées et qu'il a vaincues. Il les a clouées même à la croix. Le rapport de la puissance est renversé du tout au tout. La chair et le sang, lutter contre la chair et le sang, c'est lutter, donc ça veut dire lutter contre nos propres penchants, mais aussi lutter contre les autres hommes. Les autres hommes naturels sont aussi la chair et le sang pour nous. Et si des hommes nous offensent, si des hommes nous font du mal, d'autres hommes nous offensent et nous font du mal, s'ils nous excitent, eh bien, ils ne sont eux que chair et sang. Ils ne sont pas autre chose que chair et sang, et ce n'est pas en eux que réside la difficulté. C'est pas donc eux qu'il faut vaincre, n'est-ce pas? C'est pas eux, mais par leurs moyens, ce sont les esprits méchants qui s'efforcent de nous atteindre. Les esprits méchants, par leurs moyens, s'efforcent de nous atteindre, et ce sont ces esprits méchants qu'il faut viser. Quand nous voyons, par exemple, n'est-ce pas, des catholiques venant avec des idées derrière la tête, une certaine hypocrisie dans les paroles et dans l'attitude, c'est pas eux qu'il faut chercher à vaincre, c'est l'ennemi qui se sert d'eux, c'est l'ennemi qui est derrière. Ce sont les esprits qui s'efforcent de nous atteindre. Ce ne sont donc pas les hommes qu'il faut combattre, mais l'ennemi qui se profile derrière eux et qui les anime. Ce ne sont pas les hommes. Par conséquent, n'est-ce pas, et si on se met en colère, là, comme il arrive certains, n'est-ce pas, frères, ils se mettent en colère, ils s'irritent, n'est-ce pas, ils seraient prêts au besoin, n'est-ce pas, à jouer des poings contre les hommes. Eh bien, ils vont eux-mêmes s'enfoncer, ils vont se mettre dans une situation de plus en plus grave et pénible, parce qu'ils luttent contre la chair et le sang, contre ces hommes, et ils n'atteignent pas les esprits qui les animent. Mais s'ils prennent les armes de Dieu, les armes spirituelles, en mettant les poings dans la poche, n'est-ce pas, eh bien, ils atteindront l'esprit, et ils désarmeront ces hommes. Et c'est ce que, vis-à-vis aujourd'hui des tentatives pernicieuses de certains milieux catholiques, disons du catholicisme, c'est ce que nous avons à faire, atteindre l'ennemi qui est là. Atteindre l'ennemi par les armes spirituelles. Ce sont justement ces armes-là qu'on néglige. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Quel est ce mauvais jour? Eh bien, ce mauvais jour, il n'est pas le même pour tout le monde, et c'est tout temps d'épreuve, tout moment de tentation, toute circonstance qui nous met en grave difficulté, qui exige un combat de nous, c'est ça le mauvais jour. Pour l'un c'est aujourd'hui, pour l'autre c'est demain, n'est-ce pas? Le mauvais jour, c'est le moment ou la circonstance où nous sommes là, menacés, combattus, n'est-ce pas? Les forces de ces esprits sont sur nous, sont en train de vouloir nous coucher, nous abattre, peut-être sommes-nous déjà tombés, c'est le mauvais jour. C'est ça le mauvais jour. Il y a des jours de calme, de tranquillité, de repos, Dieu le permet. Parce que sans quoi nous serions évidemment nous serions dans l'incapacité de pouvoir poursuivre le combat, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas que la tentation ou la séduction dépasse nos propres forces, les forces que dont nous pouvons disposer. Alors, dans le mauvais jour, c'est là qu'il faut combattre, et deux choses sont à faire. D'abord, tout surmonter dans un combat décisif. Tout surmonté, et quand ça a été surmonté, tenir ferme, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Il y a des gens, des chrétiens, qui surmontent pendant un temps, très bien, et puis ils arrivent à la fin de ce combat, alors ils s'arrêtent trop tôt, ils ne prennent pas de disposition selon la sagesse, selon la prudence, n'est-ce pas? Et puis alors, quand ils sont bien là, qu'ils se sont assis, n'est-ce pas, l'ennemi revient. Pof, il les fait tomber. Il les fait tomber parce qu'ils se sont mis au repos, n'est-ce pas? Et après avoir tout surmonté, ils n'ont pas tenu ferme. Il faut surmonter dans le mauvais jour, et puis ensuite se tenir sur ses gardes. Et alors, là, l'apôtre va faire une énumération des différentes armes de Dieu. Il va dire... Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. C'est dans un même verset, et la chose en effet est bonne à associer, vérité pour ceinture et cuirasse de la justice. Il était question dans Ésaïe d'une ceinture pour le Seigneur Jésus-Christ, vu prophétiquement. Ésaïe 11, chapitre 11 et verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Alors ici, l'apôtre nous dit que la vérité est une ceinture. Qu'est-ce qu'il entend ici par vérité? C'est pas une vérité extérieure à nous-mêmes, n'est-ce pas? Ce n'est pas une vérité extérieure, mais c'est une vérité d'ordre pratique. C'est une vérité que nous pouvons définir ici comme la fidélité à la parole de Dieu qui est la vérité. Mais, n'est-ce pas, c'est pas une vérité qui reste dans la Bible, c'est pas une vérité qui reste dans la tête, c'est une vérité qui sert de ceinture, c'est-à-dire qui sert pour la marche. C'est une vérité avec laquelle, dans laquelle on marche. C'est la marche dans la vérité. Autrement dit, c'est une vérité pratique qui n'est autre qu'une fidélité à la vérité. Une fidélité à la vérité. Vous voyez, il faut faire attention parce que le même mot dans la Bible peut signifier plusieurs aspects. Le mot foi, par exemple, n'est-ce pas, est employé dans différentes acceptions. Il faut faire très attention à ça si on veut connaître les Écritures. Alors, s'il y a une vérité pratique qui est une fidélité à la vérité annoncée, eh bien, il en résultera un état de justice. La justice, c'est un état de justice, ici. C'est-à-dire, il va en résulter un accomplissement très bon de la loi divine, de la volonté de Dieu, un accomplissement, et cet état de justice va assurer une protection efficace et même invincible. Revêtez la cuirasse de la justice. C'est une cuirasse que rien ne peut percer. Celui qui est juste, personne ne peut l'atteindre. Prenons comme exemple le Seigneur Jésus, contre lequel personne, malgré le bon vouloir de tout le monde, personne ne pouvait trouver un motif d'accusation. Jusqu'au dernier moment, on était là, haletant. Et il y avait des faux témoins qui venaient dire même, « Ah, il a annoncé qu'il détruirait le temple !» Et on avait beau user de tous ces procédés, faux témoins et autre chose, le diable était là derrière, pourtant il menait la danse, n'est-ce pas? Pensez dans ce moment particulier-là. Le diable savait bien, n'est-ce pas, ce qui se jouait là. Une grande partie se jouait. Eh bien, malgré tous ces moyens-là, on est obligé, dans le Sanhédrin, de constater, bon, on n'a rien contre cet homme, et Pilate l'appelle injuste parce que il voit bien que, dans le fond, c'est l'envie des autres qui l'accuse, l'envie des Juifs, mais il n'y a rien. Et Pilate, pourtant, n'était pas un homme au bon cœur, vous savez. N'est-ce pas? Eh bien, il n'y a rien du tout. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le Seigneur était dans la cuirasse de la justice, on ne pouvait pas l'accuser. Et alors, on va l'accuser, en définitive, pour un blasphème, n'est-ce pas? Mais ce blasphème lui est particulier, ce blasphème lui est prêté. En réalité, c'est la vérité qu'il va énoncer et qui va être entendue comme un blasphème par ces hommes. Mais vous voyez que la justice, l'état de justice, procure une protection efficace, absolument efficace. Si nous nous enveloppons dans l'état de justice, il n'y a donc absolument rien à craindre. Nous avions dans cette même épître 4:24, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous voyez pourquoi la vérité et la justice sont à laisser ensemble, c'est que la marche dans la vérité, cette vérité pratique, cette marche dans la vérité va procurer une justice et une sainteté. La justice et la sainteté, la justice, est produite par la vérité, c'est-à-dire par une marche dans la vérité. Voyez-vous ? Alors, ça, n'est-ce pas, c'est la chose capitale. Si le chrétien a la vérité pour ceinture et la cuirasse de la justice, là, il est inattaquable. Vérité pratique et justice du juste, telle est l'attitude exemplaire du disciple, de l'homme droit, la vérité étant ce comportement de l'homme qui plaît à Dieu et qui a été parfaitement réalisé en Jésus-Christ. Ensuite, il est question de chaussures. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Chaussures, c'est encore Ésaïe qui nous parlait de chaussures. Ésaïe 52, 7, enfin pas tout à fait de chaussures, mais de pieds. Ce qui était tout de même très proche. 52, 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Or, les bonnes nouvelles, la paix publiée, c'est l'évangile. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Et c'est très certainement à cette image que Paul se réfère. L'évangile va donc nous donner des chaussures, c'est-à-dire la possibilité de marcher, n'est-ce pas, de marcher au combat d'une façon active et avec zèle, avec promptitude. Le chrétien sera rendu capable de marcher de façon sûre et alerte, ayant l'évangile de paix, c'est-à-dire ayant le calme et la paix en lui-même. Il va donc avoir d'excellentes chaussures, peut-être des bottes de sept lieues, si vous voulez, n'est-ce pas, pour marcher, avancer au combat. Alors là, personne ne l'arrête, n'est-ce pas, s'il est dans l'évangile. Évangile, puissance de Dieu. Ensuite, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il est évident que le malin, n'est-ce pas, lance de tous les côtés de ces flèches-là, qui sont capables de nous atteindre par le défaut de la cuirasse, s'il y a un défaut. N'est-ce pas? Vous savez que les hommes de guerre qui étaient sous cuirasse, et il fallait savoir les toucher au défaut de la cuirasse, là où la cuirasse ne les protégeait plus. La foi permet de tenir bon et elle permet surtout d'orienter la défense là où est l'attaque. Je ne commenterai pas la chose longuement car il y a un verset dans la première épître de Jean qui est formel, 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi permet d'assurer le triomphe. La bataille ne sera plus aléatoire s'il y a la foi. Le bouclier de la foi ne sera plus aléatoire, mais elle ira à coup sûr au triomphe, comme toutes les batailles que Dieu mène. La foi permettra, et alors la foi est comparée à un bouclier parce que le bouclier, on l'oriente dans tous les sens, et c'était avec le bouclier que l'homme de guerre se couvrait du côté du défaut de la cuirasse. Il n'avait pas besoin de se couvrir, par exemple, la poitrine qui était bien protégée, n'est-ce pas, par ce fer-là en vaisseau, qui vraiment était capable de dévier les traits, mais du côté de l'aisselle, par exemple, n'est-ce pas, et du côté sur le bas de la hanche, là, il était obligé de mettre son bouclier. Et il se protégeait avec cet instrument qui l'orientait devant l'ennemi. L'ennemi attaque à droite, à gauche, il pouvait orienter son bouclier. Et puis enfin, le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut, c'est toujours à Ésaïe que Paul emprunte cela. Dans 59, verset 17. Chapitre 59 d'Ésaïe, verset 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Vous voyez, la justice est une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut, il prend la vengeance pour vêtement, il se couvre de la jalousie comme d'un manteau, il rendra à chacun selon ses œuvres. Là, n'est-ce pas, il s'agit de l'Éternel qui voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture, il voit qu'il n'y a pas un homme il s'étonne de ce que personne n'intercède, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il s'agit de Yahvé, il s'agit du Seigneur Jésus qui se revêt de la justice et qui met sur sa tête le casque du salut. Le casque du salut, c'est L'espérance au salut, qu'est-ce que c'est? Nous sommes sauvés en espérance, c'est l'espérance. L'espérance qui ne trompe pas. Et c'est pourquoi Pierre nous dit dans la première épître, au chapitre 1 et au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc, le casque du salut, là, sur la tête, cette partie du corps qui est particulièrement, qui a besoin d'une grande protection, une protection particulière, c'est le casque du salut, c'est-à-dire cette certitude du salut, de l'espérance, et qui ne trompe pas. Et puis, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu? Vous voyez ici l'épée de l'esprit assimilée à parole de Dieu, car la parole de Dieu est liée à l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de parole sans esprit. Quand il est dit que Dieu a créé le monde par sa parole, ça veut dire par la puissance de son esprit, mais attention, pas de parole sans le souffle, sans, dans l'Ancien Testament, la ruah de Yahvé. Pas de parole sans la ruah de Yahvé, sans le souffle d'esprit, et inversement, le souffle se manifeste en parole qui, elle, accomplit l'œuvre de Dieu. Alors, sachons bien cela, que la parole de Dieu n'est jamais sans l'esprit. Une parole que l'on voudrait disjoindre de l'esprit ne serait plus la parole de Dieu. Quand nous disons, par exemple, que la Bible est la parole de Dieu, nous disons dans un certain sens une vérité, dans un autre sens, nous disons une contre-vérité. Parce qu'un livre ne peut pas être toute la parole de Dieu. Un livre est un livre. Il y a des choses excellentes décrites, c'est inspiré totalement, c'est vrai. Tout mot est inspiré, même je pourrais vous le montrer que c'est inspiré au mot près. Mais ce n'est la parole de Dieu que si nous laissons le souffle de l'esprit venir, n'est-ce pas, et nous tourner les pages. Il faudrait que l'esprit nous tourne les pages de la Bible et nous fasse comprendre la parole de Dieu en tirant les éléments de cette lettre qu'est la Bible. C'est la parole écrite de Dieu, mais la vraie parole de Dieu, c'est la parole vivante, parce que le souffle de l'esprit est là. Et alors, il ne nous est pas dit de prendre la Bible, par conséquent, et d'aller dire, attendez, minute, j'ai un verset pour vous. Qu'est-ce que vous dites encore? Vous dites cela. Attendez, j'en ai un autre. N'est-ce pas? Et puis, de faire une bataille à coups de versets bibliques. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on se sert. On se sert de la parole de Dieu comme de l'épée de l'esprit. Il faut que cette épée soit guidée par l'esprit. Une épée, ça menace de mort ou ça donne la vie. Nous sommes une menace de mort pour ceux qui meurent et une odeur de vie pour ceux qui sont appelés à vivre. Les prophètes, autrefois, ont parlé de la part de Dieu par le souffle de son esprit. Il y avait parole des prophètes, mais parce qu'il y avait souffle de son esprit. Alors, n'oubliez jamais, n'est-ce pas, ce que je viens de vous dire au sujet de la Bible, n'est-ce pas, ne pas faire la petite bataille des versets bibliques, ça je l'ai vu, j'ai assisté à tout ça, n'est-ce pas, très étonné d'ailleurs à certains moments, hein, la bataille des versets bibliques. J'ai vu des gens se jeter vraiment, n'est-ce pas, des versets bibliques comme on se jette des boules de neige. Ça refroidissait tout le monde, et puis ça n'apportait absolument aucune solution. Il s'agit ici de l'épée de l'esprit, qui va mettre le diable ou les esprits méchants en difficulté définitive. Ils vont être obligés de reculer et de s'en aller. Le Seigneur Jésus s'est servi de la parole de Dieu, n'est-ce pas, en épée de l'esprit. Alors, il nous faut l'esprit, même pour ce combat, hein, la parole étant une épée à double tranchant, efficace, comme le dit l'épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, elle sépare âme, on l'a oublié ce beau passage, Hébreux 4:1. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ça qu'il faut, une épée qui va trancher, séparer la sentimentalité. Ah, ça c'est le champ du diable. Enfin, le diable, il entoure tous ces instruments de velours, vous savez, aux couleurs chatoyantes, n'est-ce pas? Ça, c'est la sentimentalité. L'apostasie est toujours enrobée de sentimentalité. Alors, l'épée de l'esprit va mettre tout ça au clair. L'âme avec ses mouvements qui cèdent à la chair. Non, l'esprit qui est l'obéissance à Dieu. Oui. Alors, d'un côté, l'épée va dire oui, de l'autre côté, elle va dire non. Ça, c'est pour la mort, ça seulement, c'est pour la vie. Elle va séparer, n'est-ce pas, jointures et moelles. Mais cette épée-là qu'il faudrait savoir et apprendre aujourd'hui à se servir. Elle est efficace, elle est un secours, et c'est l'arme décisive qui va éloigner l'esprit. Et je n'insisterai pas sur les versets 18 à 20, il s'agit là de prières, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est clair, c'est net, je n'ai rien à ajouter à cela, n'est-ce pas? La recommandation est à enregistrer et à accomplir. Veillez, les prières, ça évidemment, c'est... On pourrait dire, n'est-ce pas, c'est plus qu'une arme, c'est un ministère constant de l'Église. Amen.